autour de la question.
Caroline Lachowski.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie autour de la question « Pourquoi la radioactivité ?» Nous nous interrogeons, nous nous remettons les idées au clair avec le physicien Jean-Marc Bonnet-Bidot du CEA et Camille Fadel, directeur de l'unité de physique du Palais de la Découverte à Paris, où se tient actuellement et jusqu'au 8 juin l'exposition « La radioactivité d'Homer à Oppenheimer ».
Ça permet de montrer que le monde est radioactif, que quand vous buvez du lait, il est radioactif, que l'eau minérale est radioactive. Et donc après, on explique un peu que le monde est radioactif. Quand vous mangez une banane, elle est radioactive, que vous êtes également radioactif. Votre chat est radioactif, le monde entier est radioactif. Hein, tout élément que l'on prend, ça c'est des choses qui sont au quotidien autour de nous.
Voilà ce que le spectateur de cette exposition peut découvrir, Camille Fadel, autour de la question « Pourquoi la radioactivité ?» Vous pouvez nous redonner une définition, parce que je me rends compte que c'est pas si simple que ça, justement, qu'on a tendance à tout mettre dans le grand pot de la radioactivité.
Mais c'est pas compliqué. Jean-Marc disait tout à l'heure, le noyau atomique est constitué de protons et de neutrons. Il peut arriver que ce noyau soit beaucoup trop gros, il a trop de protons et de neutrons. Il peut arriver que ce noyau ait trop de neutrons par rapport à ses protons, un mauvais équilibre. Il peut arriver que le noyau est en train de trembler sur lui-même, il veut cesser de trembler. Bref, ces choses-là font que le noyau veut changer. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh ben, s'il est trop gros, il va expulser généralement deux protons collés à deux neutrons. Il va en quelque sorte maigrir, et ça, on va parler de radioactivité alpha dans ce cas-là. S'il a trop de neutrons par rapport à ses protons, il va se débrouiller pour transformer un de ces neutrons en proton, et il y a un électron qui va apparaître, il sera expulsé hors du noyau. Là, on parle de radioactivité bêta. Et puis, s'il est en train, mettons, de trembler sur lui-même, il va cesser de trembler en expulsant de l'énergie sous forme d'un grain de lumière qu'on appelle photon gamma. Mais vous voyez, c'est le noyau qui change entre avant et après. Le noyau n'est plus tout à fait le même. Et ce changement-là, ça se manifeste par l'émission de quelque chose. Le changement, c'est la radioactivité. Le changement. Et la chose émise, c'est ce qu'on appelle le rayonnement émis qui est dû à la radioactivité, qui s'appelle alpha, bêta ou gamma.
Mais tout ce qui est rayonnement n'est pas radioactivité. Et la radioactivité, c'est donc un phénomène naturel omniprésent. Sauf que vous nous l'avez dit, Jean-Marc Bonnet-Bidot, la nature, elle cherche à s'en débarrasser. Alors que nous, depuis qu'on l'a découvert, on en rajoute.
C'est ça. C'est exactement ça. Et je pense qu'on ne peut pas, et on a entendu un certain nombre de commentaires qui tentent à banaliser la radioactivité en disant, vous voyez, c'est pas dangereux, on en a partout. Bien sûr. Mais la nature, et on pourra s'interroger après sur la coexistence de la vie avec cette radioactivité, a fait que la radioactivité a énormément baissé. Elle a par exemple baissé sur l'âge de la Terre depuis sa formation, au moins par 500 par exemple. L'uranium a baissé d'activité par 500.
Pour que la vie apparaisse,
alors, la question
faut
est posée.
Que la radioactivité baisse.
Moi, je crois que j'aime la poser cette question, parce que d'abord on sait que la vie au départ est apparue dans les océans. Vous savez que l'eau est un protecteur de tous ces rayonnements. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un lien justement sur le fait que la vie n'a pu apparaître qu'au moment où la radioactivité avait suffisamment décru à la surface de la Terre, pour qu'effectivement les organismes vivants puissent coexister avec elle. Et là, j'insiste beaucoup, c'est une coexistence, mais avec un certain seuil. Par exemple, interrogez-vous, pourquoi nous n'avons pas de sens pour détecter la radioactivité ? Simplement parce que ça n'est pas majeur pour notre protection, on est en dessous de ces seuils normalement. Par exemple, si on a un sens pour détecter la chaleur, si on se brûle, voilà, parce que ça peut atteindre à notre corps. Donc, on devrait avoir un sens, et peut-être que les premiers organismes avaient un sens pour ça.
Pour détecter la radioactivité.
Le fait que nous n'ayons plus, c'est que nous sommes passés sous ce seuil critique pour la coexistence de la vie avec la radioactivité. Maintenant, la technique nucléaire et le choix qu'ont fait les hommes de produire de l'électricité, en fait, au fond, c'est ça. C'est sous ces bêtements-là.
De l'énergie, ça. L'électricité.
L'électricité, en problème. Avec la matière radioactive est un choix extrêmement discutable parce qu'on est en train de rajouter une matière qui n'existait plus.
Et j'ai rajouté une matière dont la nature se débarrasse.
Et nous parlions tout à l'heure des militaires. Il faut quand même rappeler ça aussi parce qu'on a, enfin, en tant que physicien, vous savez, je suis de la génération qui a suivi ceux qui avaient fait, vu de leurs yeux Hiroshima. J'ai eu le bonheur d'interroger Hans Bethe, qui était un collègue de Robert Oppenheimer, qui a dirigé la cellule scientifique de Los Alamos, qui a produit la première bombe nucléaire, américaine. Et à 93 ans, quand je l'ai vu, il était encore marqué comme d'une culpabilité énorme d'avoir, en tant que physicien, permis cette explosion thermonucléaire, qui est en fait un crime contre l'humanité, puisque c'était les civils qui ont été victimes. Et donc, les physiciens sont très à cheval là-dessus. En fait, on ne peut pas utiliser une matière aussi dangereuse simplement parce que ça produit de l'électricité. Et le plutonium est au cœur de ça, puisque les premières centrales nucléaires qui ont été faites pour produire du plutonium, et uniquement. On s'est aperçu après que ça dégageait de la chaleur, donc on pouvait convertir en électricité, mais c'était pas ça.
Donc les premières centrales étaient faites pour produire du plutonium,
la
en sachant
la première centrale en France s'appelait Zoé, elle était à Fontenay-aux-Roses, elle était faite pour produire les premiers milligrammes de plutonium, sachant que ce plutonium est l'élément rêvé pour faire la bombe atomique, la bombe à fission dont on parlait tout à l'heure, parce que l'uranium n'est pas assez fort pour faire ça. Ce faisant, le plutonium, lui, il avait totalement disparu de la planète. Avant 1945, zéro plutonium sur la planète. Aujourd'hui, 1000 tonnes de plutonium stockées et 70 tonnes produites chaque année dans nos réacteurs nucléaires. On peut s'interroger, on s'interrogera certainement vers la fin de l'émission sur qu'est-ce qu'on va faire de tout ce qu'on a produit, mais l'image est assez forte. Moi, je suis pilote privé, donc ça m'a amusé cette image qu'on donne entre les centrales nucléaires et le problème des déchets derrière. C'est de dire, on a fait décoller un avion, on n'a pas construit les aéroports pour qu'il puisse se poser. C'est ça, entre la centrale et la gestion des déchets. Et ça n'est pas mineur. Donc, on ne peut pas banaliser en disant, ben non, c'est radioactif partout. Je pense que c'est plus profond. La discussion de la société doit avoir sur cette technique nucléaire. Comment doit-on l'utiliser, sous quelle forme et jusqu'à quelle proportion? Parce que c'est quand même assez important dans l'évolution de la vie sur Terre, tout bêtement.
C'est le moins qu'on puisse dire, Jean-Marc Bonnet-Bidot, autour de la question pourquoi la radioactivité. D'ailleurs, les premiers physiciens, enfin, on parlait de Marie Curie tout à l'heure, quand elle a découvert le radium, elle n'en a absolument pas mesuré les dangers. Au Palais de la Découverte, dans cette exposition sur la radioactivité, on peut découvrir justement les années folles du radium. C'est l'engouement suscité par sa découverte, la découverte du radium par Marie Curie. Un engouement, une véritable inconscience qui frise la folie radioactive, comme vous allez l'entendre au micro d'Alice Milot, notre reporter, qui a suivi Julien Babel, médiateur de cette exposition.
Alors là, c'est un peu les dérives du coup de la radioactivité, c'est-à-dire que c'est un peu vrai dans toute l'histoire des sciences. Quand on fait une découverte, on pense que c'est bénéfique, donc on commence à en mettre partout. Ça a été le cas pour le radium, surtout pendant l'entre-deux-guerres, on a commencé à en mettre dans des produits du quotidien, que ce soit la crème anti-ride, le rouge à lèvres, donc il y a pas mal d'éléments qui sont dans les vitrines justement ici. Donc c'est-à-dire que vous avez un mur avec notamment des publicités de l'époque d'objets où on avait ajouté du radium pensant que c'était bénéfique sur la peau. Là on va même encore plus loin, parce que vous avez du rouge à lèvres, de l'eau de Cologne, de la poudre Thoradia, donc radium et thorium.
La marque s'appelait Thoradia.
Voilà, exactement, pour thorium, radium.
Alors il y a écrit, oui. On ne vieillit plus, mieux on rajeunit. La crème Activia radioactive.
Exactement, donc ils mettaient du radium à l'intérieur de cette crème et ils pensaient vraiment que ça avait des effets bénéfiques. Là, il y a marqué crème radioactive, donc vous voyez qu'ils affichaient cette radioactivité dans les produits.
C'est un argument de vente à cette époque.
Oui. Exactement, il y avait même des pubs pour les eaux minérales qui se vantaient d'être l'eau la plus radioactive au monde. Qui pensait que ça faisait du bien aux gens. Alors là, vous avez une petite vitrine avec une fontaine au radium pour ajouter du radium dans leur bain. Vous voyez, c'est un peu comme une thalasso, hein. C'est un peu le. Ils pensaient vraiment que ça fait des effets bénéfiques sur la peau.
Bassin de Vichy source radium, autorisé par l'État.
Autorisé par l'État en plus, hein. C'est ça qui est encore plus hallucinant. Mais on ne pensait pas qu'à long terme, ça pouvait faire des dégâts comme on les connaît aujourd'hui.
C'est les attraits de la nouveauté finalement.
Exactement, c'est la nouveauté, la découverte. Beaucoup de prix Nobel ont été donnés à des physiciens pour des choses sur la radioactivité, donc c'était un peu la mode à l'époque.
Donc le radium, c'est presque la potion magique de l'époque.
C'était un peu la potion magique, ouais. Ouais, exactement.
Et alors, c'était le cas?
Je pense qu'ils se sont vite aperçus que non. Parce que je ne sais pas exactement les doses qu'ils mettaient là-dedans, mais c'était pas ridicule. Hein. C'était quand même des doses assez importantes. Et on s'est vite rendu compte, notamment Pierre et Marie Curie, hein, se trimballaient avec du radium dans leur poche. Ils ont eu des brûlures, des choses comme ça qui leur sont arrivées. On connaît tous comment est mort Marie Curie, hein, c'est à cause justement de ces doses répétées de radioactivité. Donc on s'est vite rendu compte des effets néfastes en grande quantité des doses radioactives.
Bon, ouf, il n'y a plus de crème au radium dans les supermarchés. Camille Fadel, c'était important, étonnant aussi, de montrer ça, ces années folles, hein, de la radioactivité, enfin du radium dans cette exposition.
Je pense que ça fait partie de l'histoire, qui est anecdotique peut-être, mais qui est, par rapport à ce que disait mon collègue, c'est intéressant parce qu'effectivement, souvent, quand on fait une nouvelle découverte, on essaie tout de suite d'en tirer les maximums de bénéfices. Au XVIIIe siècle, les gens qui faisaient de l'électrostatique faisaient des décharges électriques dans les yeux des gens, en essayant
formidable
de
aussi,
les
oui.
améliorer leur vue. Bon, et là, on a fait la même chose avec la radioactivité.
Autour de la question, pourquoi la radioactivité? Alors, on connaît les dangers aujourd'hui, et pourtant, Jean-Marc Bonnet-Bideau, est-ce qu'on en a bien pris la mesure? Vous nous expliquez bien que la radioactivité, elle est naturelle, elle est là, mais que la Terre, la vie, enfin je sais pas comment dire, cherche à s'en débarrasser. Et nous, on en rajoute.
Voilà, je pense que c'est ça le vrai problème. C'est il y a un tel prix à payer, on peut se poser la question. Donc c'est très émouvant, je pense, de voir les physiciens au début de la radioactivité. Vous voyez, vous avez de la matière, vous réalisez qu'elle émet de l'énergie, mais gratuitement, comme ça, vous avez rien à faire. Donc vous essayez de l'utiliser par tous les biais possibles.
Puis vous dites cette énergie, elle va
voilà,
être
ça c'est normal, etc. 80 ans après, bon, voilà, on a fait d'énormes progrès. On ne peut plus réfléchir comme ça et on peut se poser la question. Il y a deux éléments. Premièrement, cette technique, malheureusement, refabrique des éléments qui avaient disparu depuis longtemps à la surface de la Terre. Et deuxièmement, quand, pour d'autres éléments, elle les concentre. Parce que l'uranium, oh, bien sûr, il y a des régions, même en Bretagne, on les cite toujours, qui sont plus fortes en uranium, ça produit ce gaz qu'on appelle le radon, etc. Ça existe plus ou moins, mais c'est maîtrisé par la nature elle-même, dilué, etc. Or, dans une centrale nucléaire, on rassemble, dans un lieu fermé, bien sûr, mais effectivement, une énorme quantité de ces éléments radioactifs concentrés et du coup extrêmement dangereux. On voit bien que pour les transporter, tous les problèmes que ça pose. Et c'est ce double effet de refabriquer, de reconcentrer quelque chose qui va contre, en fait, l'effet naturel.
Mais et comment faire en même temps? On peut se poser la question, vous vous la posez en tant que physicien, en même temps, comment faire par rapport à la recherche? Parce que ce sont les physiciens qui ont aidé à le développer, parce que...
Ils ont aidé, malheureusement, conduits par d'autres logiques, c'est ce que j'ai
dit. Par des logiques militaires, voilà, par des logiques économiques, et par des logiques militaires d'abord.
Et ça continue, vous voyez, on discute sur l'Iran, qui fait sa centrale nucléaire. Ce qu'on discute, c'est qu'effectivement, l'Iran, centrale nucléaire, peut-être n'en ont pas vraiment besoin. Peut-être en ont besoin un petit peu, mais derrière ça, on veut fabriquer du plutonium qui va servir à une éventuelle bombe. Donc c'est un débat totalement mêlé et je pense que c'est pas sur cette base-là qu'une société doit décider de ses moyens de production d'énergie.
C'est-à-dire que vous dites, il faut pas tout confondre.
Voilà,
au fond,
exactement.
Derrière une production d'énergie, il y a des enjeux ou des buts militaires cachés à chaque fois et qu'il faut bien mettre les choses sur la table.
Exactement.
Faut choisir.
Et ne pas se laisser imposer un choix qui est dicté par d'autres critères. Donc si une société, à mon avis, développée, mature, ne peut pas réintroduire un poison absolu. On reparle aussi de l'affaire Arafat, là. Vous imaginez que ce polonium dont on parle,
qui aurait empoisonné Arafat,
Litvinenko, qui était l'opposant à Poutine, ça, on en a la certitude, c'est un microgramme suffit à tuer quelqu'un. Un microgramme, c'est, prenez un énorme tas de sable, vous prenez un gramme, bon, et vous répétez dans ce petit grain de sable la même séparation que vous avez fait pour l'isoler de son gros grain de sable. Vous redivisez en un million de fois pour avoir le microgramme. Et ça suffit à vous tuer un homme. Alors, de poison violent, on n'en a jamais imaginé de plus violent.
D'aussi violent.
Alors, est-ce qu'on a légitimité de recréer tout ça, même si on croit maîtriser les technologies, et encore, on sait très bien. Moi, à mon avis, ma réponse est plutôt non, vous l'aurez bien compris. Mais il y a une transition, ça tout le monde en est d'accord. Mais ça n'est pas... Que les physiciens se sont enthousiasmés, et Dieu sait si au départ ils étaient tous enthousiastes. Et je suis du CEA qui a construit une très belle technologie en départ en disant « Mais c'est génial, on va contrôler, on va... » Et puis au fond, 50 ans après, on se rend compte qu'on ne peut pas contrôler. On ne peut pas contrôler bien, on ne peut pas contrôler de mieux en mieux. On contrôle à peu près quand tout se passe bien. Et donc à ce moment-là, il y a une vraie question, et c'est la question que se pose, ben, les Allemands ont décidé effectivement de faire autrement. Logiquement, on devrait abandonner. Il y a parfois, la nature nous fournit des pistes qu'on ne doit pas forcément explorer à toute force.
Retour sur l'histoire des sciences en musique, hein, autour de la question pourquoi la radioactivité. On s'arrête sur The Ballad of Marie Curie du groupe Army of Lovers sur RFI.
A corpse in the park. Radioactive. The year 1903 in late September. A pavilion in Kashinska province. Let's prepare a voyage for December. We read the chemistry like poems.
Sound of the atoms cracking. Signs in the radium tracking. Our goddess Marie Curie.
In the park, her husband, the tutor.
Marie Curie.
Army of Lovers sur RFI, The Ballad of Marie Curie. Autour de la question, pourquoi la radioactivité? Nous sommes en compagnie du physicien Jean-Marc Bonnet-Bideau et de Camille Fadel, qui dirige l'unité de physique du Palais de la Découverte à Paris, où se tient l'exposition La radioactivité, d'Homère à Oppenheimer. Nous ne pouvons pas faire l'impasse sur les risques et les dangers de la radioactivité et du nucléaire, 2 ans après la catastrophe de Fukushima. La radioactivité continue de s'échapper de la centrale et de se déverser dans l'océan. Extrait d'un reportage d'ITélé diffusé à l'annonce de la dernière fuite grave signalée à Fukushima, c'était le 21 août dernier.
Chaque jour, le taux de césium ne cesse de grimper dans les eaux contaminées de Fukushima. Des fuites radioactives qui se déversent inexorablement dans l'océan Pacifique.
Nous comprenons que ces fuites ne sont pas sous contrôle et nous pensons que la situation actuelle n'est pas bonne.
TEPCO aura mis 2 ans à avouer ces fuites radioactives dans l'océan. Jusqu'à présent, la compagnie assurait que la radioactivité stagnait sous terre, une opacité largement critiquée au Japon.
TEPCO décide seulement avec les données qu'il a en main. Par exemple, si on regarde les accusations qui disent que la contamination se répand dans la mer, ils disent qu'il n'y a pas de preuves concrètes, donc on ne peut pas affirmer que c'est vraiment le cas. C'est comme cela qu'ils voient les choses.
Quelques semaines après la catastrophe, les autorités japonaises avaient autorisé TEPCO à déverser en urgence les eaux contaminées dans le Pacifique. Alors qu'il est, l'ampleur de la menace et ses conséquences pour l'environnement ne sont pas connues avec certitude, mais ces fuites radioactives peuvent affecter la santé des animaux marins, puis celle des hommes qui pourraient les consommer.
La radioactivité donc continue de s'échapper de la centrale de Fukushima. On ne sait pas non plus jusqu'à quand, parce que les durées de temps, quand on parle de radioactivité, là aussi nous dépassent, Jean-Marc Bonnet-Bideau.
C'est bien le problème. C'est-à-dire que, voyez, on se préoccupe... Alors, les durées de vie, on les a citées tout à l'heure. Certains, c'est des milliards d'années. Certains, ça peut être 100 milliards d'années. Donc, au moins des dizaines de milliers d'années. Alors, nous, on se préoccupe, par exemple, aujourd'hui, du CO2 qui va peut-être changer le climat. On parle d'échelle de temps de 100 ans. Ça, on peut prévoir, on peut à peu près voir ce qui se passe. Quand on parle de 1000 ans, on se dit, bon, ben, c'est le Moyen-Âge, on peut à peu près à quelle époque, parce qu'il y avait là, bon, des changements climatiques. On parle de 10 000 ans, bon, c'est le dernier âge glaciaire. Quand on parle de 100 000 ans, ben, on est perdu. On sait même plus. Quand on parle d'un million d'années, mais c'est même pas des générations, on peut pas compter en générations. On est
donc
en train...
Donc, on peut pas, autour de la question, pourquoi la radioactivité, comment faire avec ces déchets qui vont rester.
Et voilà, ce que je voulais dire, c'est même pas des questions aux générations futures. C'est que nous sommes en train de mettre sur Terre quelque chose qui va durer, mais à l'échelle de, géologique de la Terre. Et de quel droit nous le faisons par rapport à tous ceux qui vont venir après nous? De quel droit? Où qu'on le mette d'ailleurs? Parce que c'est bien le problème qu'on se pose. C'est où on va le mettre maintenant? Ce qu'on a déjà fabriqué, purement. Donc, ces échelles de temps nous échappent complètement parce que nous n'avons pas du tout l'habitude de les manipuler. Mais, vraiment, c'est beaucoup plus important que le climat qui, au bout de 100 ans, va peut-être se réguler. Enfin, vous voyez, c'est des choses
oui,
qui sont
encore... Oui, c'est une autre échelle de temps.
C'est une autre échelle de temps, totalement, et sans retour en arrière possible, ou alors en... Alors, c'est pour ça qu'on les enfouit, d'ailleurs, parce qu'en se disant, peut-être un jour, on aura la possibilité de redéconstruire ce qu'on a construit.
Mais encore se pose,
le
enfin,
c'est... Le stockage, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que on a décidé de les enfouir et d'avoir la possibilité de les ressortir, ce qui, évidemment...
Quand on saura quoi en faire.
Alors, quand on aura peut-être un jour une façon de recasser proprement, avec pas trop d'énergie, parce que si on dépense encore 10 fois plus d'énergie pour casser des atomes qui nous ont servi à produire un peu d'énergie, on est dans la déraison, si vous voulez. Donc c'est le problème, il est vraiment très 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 important.
Autour de la question, pourquoi la radioactivité? Cette exposition, d'ailleurs, au Palais de la Découverte sur la radioactivité, Camille Fadel, elle a été organisée par l'ANDRA, c'est l'Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Nucléaires, qui cherche comment, que faire avec les déchets, qui se pose, elle aussi, enfin, les questions insensées de savoir comment est-ce qu'on fait, est-ce qu'on met un panneau pour savoir si dans 10 000 ans ou dans 100 000 ans, ceux qui seront là pourront lire que là, il y avait des déchets nucléaires. En même temps, quel est le but de cette exposition? C'est de dédramatiser?
Moi, je pense que le but, c'est... Alors, dans l'exposition, il y a 4 parties. Il y a une partie qui porte sur qu'est-ce que la radioactivité? Donc, c'est de la physique pure. Deuxième partie, c'est l'histoire, comment ça a été découvert. Troisième partie, quelles en sont les applications? Et quatrième partie, les dangers, les aspects sanitaires. Je pense que l'objectif, dans un premier temps, c'est à partir du moment où on est en train de discuter d'un sujet aussi chaud, j'allais dire, il faut connaître un petit peu les bases.
C'est ça.
Bon, donc l'objectif, c'est en partie ça, faire comprendre les béabas. Au public,
savoir de quoi on parle.
Savoir de quoi on parle, qu'est-ce que la radioactivité, etc. Et ensuite, il y a une partie qui est consacrée aux aspects des dangers, les rayonnements, les effets sur le corps, la santé, les stockages, il en est question dans l'exposition. Voilà, maintenant, comme disait Jean-Marc, le problème, il est là. Les déchets, nous les avons.
Et nous avons, en France en tout cas, fait le choix non seulement dans la recherche, pour notre énergie, de continuer le nucléaire. Donc en même temps, on a l'impression, on entendait Fukushima, il y a eu Tchernobyl, Three Mile Island, les irradiés de Béryl.
Je pense que la vraie décision n'est pas forcément de continuer. On a vu qu'il y avait des initiatives politiques qui consistaient à dire dans tant d'années, et la durée était encore déterminée, on n'aura plus que 50% de nucléaire pour l'électricité. Ça, c'est dans le bon sens. On ne peut pas évidemment totalement arrêté brutalement, mais le bon sens c'est ça, parce que cette impasse que nous posent les déchets, et peut-être qu'il y a encore 40 ans, 50 ans, on pensait que bon, on saurait le faire, il y aurait d'autres. Bon, on n'a pas la
technologie. Là aujourd'hui, au fond, la science, c'est aussi de comprendre qu'on n'a pas la technologie.
Exactement.
et qu'on n'y arrivera pas comme ça.
N'y arrivera pas dans un court échelle de temps,
voilà.
Parce que vraiment le problème posé est très très profond. C'est de la physique nucléaire. Les noyaux sont tenus par une énergie énorme, donc pour les changer dans leur nature par nous-mêmes, c'est très très compliqué et ça demande beaucoup d'énergie, donc on est dans une équation énergétique qui n'est pas du tout la bonne. Mais comme dit Camille Fadel, les déchets sont là. Donc l'initiative de l'ANDRA, c'est très bien. Il faut faire le mieux possible. Et
avec
ce qu'on a. Et j'ai beaucoup... moi, en tant que citoyen, j'apprécie beaucoup, effectivement, l'idée qu'au lieu de les mettre dans un truc scellé et de plus s'en occuper, on a prévu éventuellement de pouvoir les retransporter. C'est-à-dire qu'on fait une provision sur le futur en disant si ça ne convient pas, on pourra les bouger, etc. Donc ça, c'est correct. Mais... on est quand même un peu estomaqué qu'on nous pose. Enfin, moi, au début de l'énergie nucléaire, j'étais tout petit, donc je veux dire. Mais aujourd'hui, on réalise tous que oui, on a tout ça sur les bras.
Donc en fait, il faudrait quoi pour les chercheurs chercher dans plein de possibilités,
Je pense qu'il faudrait évidemment. On en revient à ça. Il faut arrêter parce qu'on va pas continuer. Parce que je pense que ce qui trouble les gens, c'est pour ça qu'ils réagissent souvent, c'est que si on vient leur dire on met les déchets chez vous, ils disent oui, mais si vous continuez à en produire, vous allez après. Non, on voudrait que ça s'arrête, si vous voulez. Peut-être un jour on reprendra cette technologie avec d'autres moyens. Peut-être on aura trouvé d'autres choses. Mais telle qu'elle est, c'est une usine à gaz absolument. Vous avez visité une centrale nucléaire, vous comprenez qu'il y a énormément de possibilités que ça pète quelque part, quoi, ces trucs. Et donc, alors, on arrête, effectivement, et après, on fait au mieux pour les déchets.
C'est ça, il faut continuer la recherche pour ce que nous avons.
Et en essayant d'avoir de l'innovation, de savoir comment on pourrait faire, comment on pourrait... Mais l'équation est pratiquement... insolvable.
Je rappelle que vous êtes physicien au CEA
Mais je crois que vous pourrez demander à tout le monde. C'est pas le problème. Je ne traduis pas un fantasme personnel, si vous voulez. C'est un vrai, vrai problème que personne ne se masque non plus. La durée de vie, c'est une équation qu'on n'a jamais eu à traiter. Traiter une durée de vie d'un million d'années, de 700 000 ans, d'un milliard d'années, qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut pas le faire du tout.
Donc, Camille Fadel?
Juste un chiffre. 434 réacteurs nucléaires au monde en fonctionnement actuellement, mais malgré tout, il y en a 70 en construction en ce moment.
Donc rien n'est arrêté.
Et oui, c'est pas...
On a souvent
le sentiment qu'après Tchernobyl, après Fukushima... Non, il y en a 70 en construction en ce moment.
Donc ça, c'est à réfléchir pour tous les citoyens que nous sommes, pour les chercheurs que vous êtes, pour les physiciens que vous êtes aussi, trouver des pistes et puis savoir de quoi on parle.
Oui, c'est ça. Je pense que la recherche, vous savez que le CEA s'est rebaptisé. On était avant commissariat à l'énergie atomique. Nous sommes maintenant commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, ce qui vous prouve que ça va dans le bon sens, qu'effectivement, la société réoriente maintenant ses recherches pour diminuer sans doute à terme le nucléaire et le remplacer par d'autres sources d'énergie. Et ça, c'est sans doute la meilleure voie.
Merci en tout cas à tous les deux, Jean-Marc Bonnet-Bideau et Camille Fadel, d'être venus en direct partager avec nous dans toutes ces interrogations. Je rappelle que l'exposition La radioactivité d'Homère à Oppenheimer, c'est à voir au Palais de la Découverte, si et quand vous êtes à Paris, amis auditeurs. Vous avez le temps, c'est jusqu'au 8 juin qu'on se le dise.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Demain, comme tous les vendredis, c'est Jean-Yves Casga que vous retrouverez, amis auditeurs, à ce micro. Quant à nous, Guillaume Ploquin à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses et Caroline Nachowski, nous vous donnons rendez-vous lundi pour nous poser ensemble toujours de nouvelles questions. Nous nous demanderons par exemple comment observer la Voie lactée. D'ici là, portez-vous bien, surtout restez curieux et continuez de vous et de nous interroger. Merci de votre fidélité, merci de votre interactivité. Dans quelques instants, c'est l'heure de votre journal sur la Radio Mondiale.
Pour nous contacter, autour de la question @rfi.fr.